Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse et ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est heureux que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, ils ne savaient que dire, tant était grande leur frayeur. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. C'est dans l'Évangile, selon saint Marc, chapitre 8, versets 2 à 8, le récit de la transfiguration. C'est beau d'entendre cela pour démarrer aujourd'hui notre thème sur comment écouter la parole de Dieu dans ce cycle 2, comment écouter la parole de Dieu. Le récit de la transfiguration donne et qui est un récit de mystique, mais aussi un récit qui nous explique comment est le fruit de la prière. Qu'est-ce qui se passe dans la prière? La prière nous fait goûter la présence de Jésus, nous on est seul avec Jésus. Et la prière nous fait qu'on peut rayonner de l'intérieur, et des fois même de l'extérieur, comme Jésus a rayonné. Et que le Père, nous entendons le Père nous dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Le Père nous invite à écouter Jésus dans un profond silence, donc écouter celui qui est la parole, donc écouter la parole de Dieu. Et nous voyons que Jésus est celui qui synthétise, il est la parole de Dieu, il synthétise tous les écrits de la loi et des prophètes, il synthétise à lui seul Moïse et Élie. C'est pour ça qu'au récit de la Transfiguration, nous avons Moïse et Élie, le Christ, et la clé de lecture, il est la parole de Dieu, il est celui qui accomplit la loi et les prophètes. Donc voilà, il est bon peut-être de méditer cela quand nous commençons notre enseignement sur comment écouter la parole de Dieu, de voir Jésus qui accomplit l'écriture, qui est celui qui donne la clé de lecture de la loi et des prophètes, et que le Père nous invite à l'écouter dans un profond silence, et dans un profond silence, en écoutant Jésus, en écoutant sa parole, on peut peut-être rayonner comme lui de l'intérieur et parfois de l'extérieur, être transfiguré. Et tout disparaît, il n'y a plus au bout d'un moment que Jésus seul, on n'est qu'avec lui. Ça, c'est un fruit de la contemplation. Le pape François disait le 23 septembre 2014 dernier, la vie chrétienne, c'est simple, simple. Peut-être l'avons-nous rendu un peu compliqué avec tant d'explications que personne ne comprend la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. C'est assez simple. La vie chrétienne, c'est écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Mais où peut-on entendre Dieu parler? Nous pouvons entendre parler Dieu de façon certaine dans la parole de Dieu. De fait, nous verrons que Dieu parle partout, dans les événements, dans la création, dans les rencontres, en notre cœur, mais de manière éminente et certaine dans la Bible. Dieu parle dans la Bible. Pour nous, elle est un livre, elle est parole divine. Alors, quand nous disons la Bible, qu'est-ce que nous voulons dire? La Bible n'est pas un livre comme les autres. C'est un recueil qui contient des sagesses, beaucoup d'autres livres contiennent des sagesses, mais ce livre-là n'est pas simplement un recueil de sagesses. Beaucoup de nos contemporains ont leur chemin à travers un maître spirituel, à travers un philosophe, voilà des écrits philosophiques, voilà plein de choses théologiques, ésotériques, mais ce n'est pas un livre inspiré. La Bible est un livre inspiré. Dans ce livre-là, Dieu parle de manière éminente. La Bible, qui veut dire en grec « ta biblia », veut dire « bibliothèque ». C'est un livre qui contient à lui seul beaucoup de livres, en tout il en contient 73, 46 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau. Ces livres racontent l'histoire de l'humanité depuis ses origines, jusqu'au temps de Jésus et après, au temps des apôtres, l'Église naissante. Dans ce livre-là, l'agencement s'est fait dans l'histoire de l'Église progressivement, c'est ce qui a donné le fameux canon des Écritures. Nous verrons pourquoi le canon en soi, il est pertinent. Aujourd'hui, on ne va pas voir l'histoire du canon, mais on va voir en quoi le canon des Écritures est pertinent pour nous. Dans les 46 livres de l'Ancien Testament, la Bible catholique a conservé l'intégralité du dépôt des livres d'Israël. Je dis cela, et il est important, parce qu'Israël lui-même n'a pas conservé tous ses livres saints. Puisqu'un certain nombre de livres saints d'Israël sont écrits en grec et ont été après rejetés par Israël au contact du christianisme pour garder simplement les livres hébraïques. Donc, le christianisme, vraiment, a gardé les livres hébraïques et les livres grecs de l'Ancien Testament. Elle a gardé tout le dépôt de la révélation faite à Israël. C'est important de le dire. Et là-dessus, par exemple, nos frères protestants, c'est pas pour polémiquer, mais qui ont gardé que la dimension hébraïque de l'Ancien Testament, ont des livres en moins. C'est important de l'entendre. Donc nous, c'est véritablement 73 livres qui contiennent 46 livres de l'Ancien Testament et 27 livres du Nouveau. Si la Bible est une bibliothèque avec différents livres, qui a différents styles, nous avons des récits de type symbolique, nous avons des récits de sagesse qui sont inspirés eux-mêmes par la sagesse humaine de l'époque, comme le livre des Proverbes, etc. Nous avons des livres de poésie, nous avons des récits historiques, et il nous faudrait nous entendre sur ce que nous entendons par récits historiques. Nous avons aussi des prophéties avec des visions apocalyptiques, voilà. Et nous avons beaucoup d'histoires de personnages, et à travers l'histoire de personnages, tout cela, c'est Dieu qui a parlé. Imaginons que, et c'est vrai, la composition de ce livre s'étale sur 1500 ans. On pourrait prendre un exemple en disant que la Bible aurait commencé à l'époque de Charlemagne et que le dernier chapitre viendrait de se terminer maintenant. Nous imaginons l'évolution culturelle qui a eu entre Charlemagne et aujourd'hui. Eh bien, c'est exactement le même effet qu'il y a dans l'Écriture, puisqu'effectivement, la rédaction s'est faite sur à peu près 1500 ans. Donc, les mentalités, la manière d'aborder le mystère de Dieu, tout en étant, on va voir, parole de Dieu, ça s'est fait dans une culture qui s'est inscrite dans le temps. Et nous verrons cela à une implication sur le fait, quand nous parlons de l'inspiration divine des Écritures, ce n'est pas du direct. Ça s'est fait dans le temps aussi, avec une culture particulière. Dans d'autres traditions religieuses, l'inspiration est directe, il y a une dictée, je pense à l'islam, et c'est très différent que la conception chrétienne du fait d'intégrer la temporalité et la culture de l'époque qui évolue 1500 ans. Pourtant, s'il y a des différences de style d'écriture, de style dans les livres, certains sont à voir au niveau symbolique, poétique, de sagesse, prophétique, historique, qui raconte un personnage, etc. Il y a une unité réelle dans tous ces livres, et c'est ça qui est extraordinaire, parce qu'en réalité, ces livres ont tous Dieu pour auteur. Tout au long des 1500 ans, c'est toujours le même Dieu qui parle aux hommes pour leur dire qui il est. Et cela préserve, et nous remarquons cette constante unité. Il faut nous entendre sur quand nous parlons inspiration. C'est bien l'auteur. Un auteur sacré est un auteur inspiré. Un auteur sacré, c'est quelqu'un qui utilise la science, les connaissances, la culture de son temps. Il parle avec son propre jugement. Il développe tout ça. En cela, lui-même, il est limité. Mais en même temps, il est inspiré. Tout le monde n'est pas inspiré. L'auteur sacré est inspiré d'une manière particulière et a reçu cette grâce de Dieu. Et l'inspiration permet à Dieu, à travers l'auteur sacré, que l'auteur écrit tout ce que Dieu veut et rien que ce que Dieu veut pour nous expliquer ce qui concerne notre salut. Et en cela, l'auteur sacré ne se trompe pas. L'auteur sacré ne fait pas œuvre d'histoire, ne fait pas œuvre de science, mais tout ce qui concerne notre salut et rien que ce qui concerne notre salut dans sa culture, bien que limité, et lui-même limité dans ses facultés, l'auteur ne se trompe pas. parce qu'il est inspiré. En cela, il est infaillible. Ça, c'est l'inspiration. Dieu, nous voyons que Dieu n'utilise pas l'auteur sacré comme un pantin. Il lui permet, ce n'est pas une dictée, il lui permet d'utiliser toutes ses compétences et tout, ses images, etc. Mais l'auteur sacré ne se trompe pas quand on parle du salut. Et l'auteur sacré va même penser des choses, écrire des choses qui le dépassent dans sa propre conception des choses. Quand Isaïe dira « Voici que la Vierge tombera enceinte », je pense qu'on a peut-être dû bien rire à l'époque. Je ne sais pas si on a ri parce qu'on avait un respect pour le texte sacré, mais on n'a pas compris ce que voulait dire. L'auteur sacré n'a pas forcément compris de quoi il s'agissait. Mais Dieu a voulu que ça soit marqué, parce que c'est une prophétie, et que c'est vrai, et que ça va se réaliser. Donc on voit là la puissance de l'inspiration. En cela, il n'y a pas d'erreur dans l'Écriture en ce qui concerne le salut. Il est très important de le dire, il n'y a pas d'erreur dans l'Écriture en ce qui concerne le salut. Et l'Écriture nous est donnée de manière certaine, nous pouvons la croire, et ce que nous recevons de l'Écriture nous permet d'accéder au salut. Elle nous est nécessaire pour le salut, sinon Dieu ne nous aurait pas parlé. Voilà, c'est important de l'entendre. Alors, ce qui est important aussi, si nous continuons, c'est que comment on peut lire l'Écriture? C'est ça, important. Comment on peut lire l'Écriture? Ces 76 livres, nous disions, qui sont inspirés, avec des styles différents, comment on peut la lire? Tout d'abord, trois étapes. L'écoute, scruter la parole et la mettre en pratique. Si l'Écriture est la Sainte Écriture, les paroles de Dieu, nous devons avoir un grand respect pour elle. Est-ce que nous la mettons, dans quel endroit nous la mettons dans notre maison? Elle prend la poussière dans la bibliothèque? Est-ce qu'elle est sur la... Elle est séparée des autres livres, c'est pas un livre comme les autres? Est-ce qu'elle est mise en avant? C'est une question. Est-ce que nous la portons sur nous? Voilà. Et nous pouvons faire ce que nous appelons dans la grande tradition de l'Église la lectio divina, l'écoute priante de la parole de Dieu, la lecture divine, la lectio divina. Le pape Jean-Paul II, dans une exhortation apostolique au seuil du troisième millénaire, disait « Il n'y a pas de doute que ce primat de la sainteté et de la prière n'est concevable qu'à partir d'une écoute renouvelée de la parole de Dieu. Il est nécessaire en particulier que l'écoute de la parole devienne une rencontre vitale, selon l'antique et toujours actuelle tradition de la lectio divina, permettant de puiser dans le texte biblique la parole vivante qui interpelle, qui oriente et qui façonne. Qui interpelle, qui oriente et qui façonne. » On va voir que la parole de Dieu nous façonne, nous interpelle et donne un cap pour la vie. D'abord l'écoute. Il faut se rappeler que dans le Deutéronome, au chapitre 6, verset 4, on en reçoit les commandements de Dieu. Mais la première chose que dit Dieu, c'est écoute. Écoute. C'est une vraie attitude pour nous de réapprendre aujourd'hui à écouter. Souvent, en fait, on entend, on n'écoute pas. Il y a du son, il y a de l'information, ok. Mais est-ce que j'y ai mis toute mon attention? Est-ce que je me suis disposé à recevoir cela? C'est la qualité de l'écoute. Et Dieu le dit, écoute Israël. Et Jésus va reprendre cela. Quand, à la transfiguration, la parole de Dieu nous est révélée totalement en Jésus-Christ, comme celui qui accomplit la loi et les prophètes, Moïse et Élie. Et pourtant, le Père dira, celui-ci, mon fils bien-aimé, écoutez-le. La première chose, c'est une attitude d'écoute. Et donc, pour faire écoute, il faut faire silence. C'est important de faire silence. Et on voit que le silence n'est pas habituel. Une mystique, Adrienne von Speer, en 1902-1967, disait « L'homme a la redoutable capacité de réduire au silence Dieu par son bavardage continuel. » L'homme a la redoutable capacité de réduire au silence Dieu par son bavardage continuel. Donc c'est... Il faut apprendre à faire silence dans la prière. Faire silence. Et nous allons voir que ce silence, il est voulu par Dieu, c'est une ascèse, mais il y a un autre silence qui est bon. Un père de l'Église, Ignace d'Antioche, Ignace d'Antioche disait « Celui qui possède vraiment la parole de Dieu peut aussi entendre son silence. » Tiens, il y a un silence de la parole de Dieu, en effet. La parole de Dieu nous conduit à l'intimité avec Dieu et en nous-mêmes. Elle nous amène au silence, elle nous conduit à la contemplation. Ce qui n'a rien à voir avec le silence, j'allais dire, du bavardage où il nous faut d'abord une ascèse du silence. Mais c'est d'abord cela. Écoute Israël, c'est faire silence, se forcer à faire silence, se mettre en retrait, va dans ta chambre, prie dans le secret, et prêter l'attention et non pas simplement entendre. Et là, encore une fois, comment j'écoute la parole de Dieu, ne serait-ce qu'à la messe? Est-ce que je l'entends? Ou vraiment je prête attention et je fais silence? C'est la première chose. Et donc cette écoute, il va s'en suivre que nous allons lire la parole de Dieu, faire lectio. Et pour cela, il est bon de la proclamer à haute voix, qu'on soit dans sa chambre, qu'on soit tous dans l'assemblée dominicale, nous proclamons la parole de Dieu parce qu'elle est faite pour être entendue à haute voix, lentement, pour comprendre de quoi il s'agit, mais la proclamer. Et de poser un acte de foi, Dieu parle aujourd'hui pour moi. Dieu parle aujourd'hui pour moi. Donc nous nous disposons à entendre, et quand nous nous disposons à entendre, nous nous disposons à quitter nos filtres. J'insiste là-dessus, c'est pas évident. Qu'est-ce que c'est qu'un filtre? C'est, ah oui, la parole de Dieu me dit ça, oui, je connais ce récit, oui, évidemment, c'est le bon samaritain, ça va donner ça comme histoire. Donc en gros, on n'a pas besoin d'écouter, on sait déjà d'avance. Et ça, c'est très mauvais, parce qu'il faut apprendre à être surpris par la parole de Dieu. Vider ses filtres, laisser tomber, on écoute jusqu'au bout, et peut-être qu'un mot va me toucher. Je prête attention, j'écoute, je ne fais pas que entendre, que ça soit à la messe ou dans sa prière personnelle. Et pour ça, l'écoute proclamée et la répétition lente peut aider pour l'attention. Souvent, on entend le texte et puis après, on commence à réfléchir, mais on n'a plus écouté. On gamberge par rapport à ce qu'on sait nous-mêmes. On plaque ce qu'on sait. Or, il faut plus passer de temps à écouter ce que la parole de Dieu dit plutôt que de gamberger, parce qu'il faudra gamberger après sur le mot, la phrase que Dieu va mettre en valeur pour moi aujourd'hui, parce que Dieu veut parler pour moi aujourd'hui. Et Dieu ne me parle pas qu'en mode de catéchisme, un standard uniforme, il me parle personnellement pour moi aujourd'hui. Et donc c'est important de faire cet effort lent d'écoute, de répétition lente, pour voir où Dieu parle. La Bible, je disais, n'est pas un traité scientifique. Jean-Paul II s'exprimait de manière suivante à des savants, « La Bible ne veut pas enseigner comment le ciel a été fait, mais comment on va au ciel. » La Bible nous enseigne sur toute l'histoire du salut, et Dieu nous parle pour aller au salut. L'écoute, j'en ai parlé. Ce qui est important après, c'est de scruter l'Écriture. C'est la deuxième chose. Une fois que nous avons entendu et que Dieu peut nous avoir parlé sur un mot, une expression, une attitude, nous méditons avec tout le travail de notre intelligence. La Bible, c'est pas fait pour les gens bêtes. C'est pas fait pour les érudits, mais c'est pas fait pour les idiots. On apprend à écouter avec son intelligence. Je rappelle que l'acte de foi est un acte intellectuel. C'est la libre adhésion de son intelligence aux données révélées. Et donc nous utilisons toute notre capacité, notre connaissance, notre culture, à méditer ce que nous avons reçu, à essayer de comprendre comment les implications morales, intellectuelles dans notre vie, comment tel verset a écho dans tel verset, etc. Nous participons. Et c'est un vrai travail. Et ce travail-là, c'est de la prière. Pour les Juifs, ils se lèvent tôt le matin, ils étudient énormément l'Écriture. Ils travaillent l'Écriture, ils méditent, ils essayent de comprendre. Et pour eux, c'est une forme de prière. Notre prière peut être un travail. Une fois que Dieu nous a interpellés, nous travaillons. Vous voyez ? Nous essayons de plus comprendre pour plus aimer. C'est nécessaire, parce que à ce moment-là, ça s'imprime en nous. Et la Vierge Marie, qui a reçu la parole de Dieu dans sa vie, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et quand le Christ, parole de Dieu, va parler au temple, à 12 ans, devant les docteurs de la loi qui méditaient la parole de Dieu, en Luc 2, Marie ne va pas comprendre que Jésus va lui dire « Il faut que je sois dans la maison de mon Père. » Mais elle va retenir ces paroles dans son cœur. Elle va faire œuvre d'intelligence, c'est-à-dire qu'elle va ruminer, travailler, méditer ce que ça veut dire avec sa culture, son intelligence et les événements de sa vie. Et ça va prendre sens. C'est la même disposition du cœur qu'elle a quand elle dit « Comment cela va-t-il se faire ?» Elle veut rentrer dans l'intelligence. Elle n'est pas sceptique, elle veut rentrer dans l'intelligence. Et donc nous, une fois que nous accueillons que Dieu parle, dégager des a priori, c'est difficile, mais il faut essayer, il faut demander cette grâce, nous rentrons dans une coopération par la méditation, par notre intelligence, notre culture. La Bible, c'est pas fait pour les idiots, c'est pas fait pour les feignants. C'est important, c'est important. Si nous ne faisons pas ce travail, nous en resterons toujours à une strate extérieure. Et nous voyons, permettez-moi de ne juger personne, mais nous voyons quelqu'un qui a fait œuvre de travailler l'Écriture avec ce qu'il est, si humble soit-il, puisqu'on sent que la parole a une épaisseur de vie dans sa vie. Et on voit quelqu'un qui la récite sans la comprendre, qui a fait simplement une œuvre de culture d'érudition, qui la récite machinalement. La Bible, c'est pas fait pour les idiots et pas fait pour les feignants. La Bible me donne deux dimensions très importantes qui sont étroitement liées. Si je veux me connaître, la Bible me permet de me connaître. Et la Bible me permet de connaître Dieu. Elle est comme un miroir qui me renvoie à moi-même. Pourquoi ? Parce que quand Dieu parle, je découvre qui est Dieu et Dieu me donne ce que je dois devenir, ce qu'il a envie que je devienne. Et en me montrant tel qu'il voudrait que je sois, il me renvoie un miroir en me disant « Où tu en es, toi ?» Et nous voyons humblement que nous ne sommes pas toujours comme la parole de Dieu veut que nous soyons. Ou alors que nous, la parole de Dieu révèle en nous des potentialités insoupçonnées. Ainsi la Bible nous révèle tel qu'on est. Celui qui écoute la parole ne devient pas quelqu'un gonflé d'orgueil, mais devient humble. Parce qu'il se révèle tel qu'il est. Voyez ? Mais c'est toujours fait dans une attitude aimante, de vérité. La Bible va aussi façonner notre être intérieur dans cette méditation. Parce que, comme le dit encore l'Écriture en Matthieu 12, verset 34, c'est du trop-plein du cœur de l'homme, c'est du trop-plein du cœur que la bouche parle. C'est du trop-plein du cœur que la bouche parle. Les paroles de Dieu vont rentrer dans mon cœur et me changer. Et il est possible qu'elles impriment en moi une autre manière de parler, une autre manière de sentir, de voir. C'est de la parole qui transforme. On va voir ça. Et la mise en pratique. Saint Jacques est très clair là-dessus en Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui se regarde dans une glace et aussitôt après s'en va en oubliant de quoi il a l'air. Il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Saint Jacques ajoutera aussi, mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter, ce serait vous faire illusion, en Jacques 1. Donc il y a celui qui veut, après avoir accueilli dans la foi, après ruminer de tout son être pour se laisser façonner, doit mettre la parole en pratique. Qu'il me soit fait selon ta parole. Faites tout ce qui vous dira, dit Marie. La maîtresse de l'écoute de la parole est celle qui la met en pratique. Et là, nous voyons quelque chose qui est transformant. Le père Cantalamessa, un prédicateur de la maison pontificale, raconte qu'un jour, dans sa communauté des Capucins, un frère avait pris par erreur un objet qu'il utilisait. Il s'apprêtait à le lui faire remarquer et à demander qu'il le lui rende. Quand il tomba par hasard sur la parole de Jésus qui lui dit « À quiconque te demande, donne. À celui qui t'enlève ton bien, ne le réclame pas. » Luc 6, 30. Il comprit que cette parole s'appliquait certainement à lui à ce moment-là. Il n'avait qu'à obéir à la parole. Vous voyez, des fois la parole peut être très précise et si nous y obéissons, elle va nous transformer. Ceci dit, il faut faire cette expérience que les versets de Dieu peuvent nous impacter directement dans notre vie quotidienne. C'est très important. Ceci dit, une tentation pourrait arriver que la Bible devienne une sorte de livre de croyance un peu magique. On l'ouvre à tout moment comme une sorte d'oracle. Ça serait une déviance de ce travail qu'il faut faire d'un acte de foi, d'un acte d'intelligence, de travailler et de rejoindre. Vous voyez, la Bible ne donne pas toutes les réponses dans les détails pratiques de ma vie. La Bible ne me dit pas si je dois mettre une écharpe ou pas. Non, mais on pourrait croire que c'est à ce niveau-là, des fois, pour certains. Ben non, il faut travailler avec son bon sens. Dieu peut parler très précis quand il veut. Ça a été fait pour le Père Cantal à Messa. Tout le monde fait cette expérience. Tu parles, donc. Mais Dieu nous demande aussi d'utiliser notre liberté pour adhérer librement. Voyez dans les mots que Dieu dit. Il y a un espace de liberté de l'homme. Et l'homme peut poser sa liberté bien orientée à Dieu de sa manière personnelle. En fait, on peut répondre de manière personnelle à chaque mot de la parole de Dieu. On n'est pas des pantins. Ce n'est pas tout programmé comme ça. C'est important. Cela implique donc pour nous un discernement. Et nous verrons ça aussi, un discernement sur comment écouter la parole de Dieu, comment la voir dans son ensemble. Je rajoute quelques éléments spirituels qu'il nous faut avoir quand nous écoutons la parole de Dieu. D'abord, un acte de foi. Dieu veut me parler. Dieu s'intéresse à moi. Il veut rentrer en contact. Faire silence intérieur, un silence d'écoute, et avant même la cesse du silence extérieur. Et la parole de Dieu va révéler en moi un émerveillement. Je vois la gratuité de Dieu dans la création, dans l'histoire du salut, pour moi. C'est mon Père qui me parle. Je crois qu'on peut toujours remercier Dieu qui parle. Que ce soit une parole bonne ou une parole de reproche. C'est notre bon Père qui parle. Merci Seigneur. La deuxième chose, la parole de Dieu va nous faire grandir, c'est l'aspect plus filial au sens de Jésus, dans l'intelligence. Le pape Jean-Benoît XVI disait dans son exhortation apostolique après le synode sur la parole de Dieu, Verbum Domini, « Celui qui connaît la parole connaît pleinement la signification de toute créature. » Ce n'est pas un traité scientifique, mais nous savons spirituellement et existentiellement la valeur de chaque chose. Ça veut dire que ça nous fait rentrer dans l'intelligence du réel. Et cette dimension d'intelligence, c'est vraiment la personne de Jésus qui est le Logos, celui qui est l'intelligence créatrice. Voyez ? On rentre là-dedans. Et je fais cette petite parenthèse. Un jour, un prêtre m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Il m'a dit, tu sais, le peuple juif a été un peuple de grands penseurs, de grands créatifs, de grands musiciens. Nous avons eu le siècle dernier des grands penseurs. On pense à Einstein, à des grands musiciens, à des grands créatifs. D'où tirait-il ce don d'émerveillement, cette pénétration du réel, ces intuitions? D'où tirait-il cette culture de l'homme, au-delà de toutes les épreuves, de l'intelligence acquise dans la parole de Dieu? Leur culture de la parole de Dieu a façonné leur être intuitif, intellectuel, créatif. L'intelligence du réel. La Bible, c'est pas fait pour les idiots, ou ça permet d'être intelligent. C'est important. Et puis, la parole de Dieu nous donne la force. Quand nous invoquons le Saint-Esprit, c'est la première chose à faire. J'ai oublié de le dire, c'est une erreur. Dans la Lectio Divina, nous commençons par invoquer le Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui a inspiré les Écritures. Et si nous voulons être au diapason avec lui, on invoque le Saint-Esprit. Pour qu'il nous permette de comprendre, qu'il fasse en gros, qu'il imprime en nous la parole de Dieu. Vous voyez, celui qui l'entend en surface, pas d'impression. Mais celui qui est impacté par un mot, impression par le Saint-Esprit. Rappel de Jean 14, 15, 16, où Jésus dit dans ces chapitres que le Saint-Esprit nous permettra, nous redonnera la vérité que lui a dit. Il nous fait connaître de l'intérieur l'Écriture, il l'imprime en nous. Donc nous l'invoquons pour entendre la parole de Dieu. Et bien ce Saint-Esprit, il agit quand nous écoutons la parole de Dieu, il nous donne la force de croire que la parole dit vrai et la force aussi de la mettre en acte. C'est pour ça qu'il est bon dans la prière de répéter dans la journée un verset, attitude, parce qu'à ce moment-là, je gagne de la force. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, mais on y va, on continue. Je commencerai de me disperser, demeurez en moi comme moi en vous. Je m'inquiète, Père, entre tes mains, je remets ma vie. La parole de Dieu me redonne, me réajuste, me redonne la force d'avancer. Il y a une vraie grâce spirituelle à cela. Je parlais du silence, je n'ajoute pas ça. Il y a aussi la disponibilité. La parole de Dieu peut me dire cela. Le Père, quant à la messe, elle lui a demandé de laisser l'objet à son frère. Et intérieurement, on peut se dire, oula non, pas ça, Seigneur. Oula non, je ne suis pas prêt. Elle creuse en nous une disponibilité. Elle creuse en nous. Et quand Dieu a une idée, généralement, comme il est bon pédagogue et que nous, on est têtus, il la répète à travers un verset, un autre, une autre personne. La parole de Dieu, elle va faire son effet. Nous verrons ce qu'a dit Isaïe est très vrai. La parole de Dieu vient à nous et elle ne retourne pas à Dieu sans avoir fait son effet. Donc Dieu, il a une idée, il a de la suite dans les idées, il le fait. On met la parole en acte. Comment on garde la parole? Ce qui peut être très bien spirituellement, c'est d'avoir un carnet à parole. Les paroles de Dieu que vous entendez à la messe, les paroles de Dieu que vous lisez dans la Lectio Divina, vous les notez et vous les reprenez et vous les apprenez par cœur. Elles vont façonner votre vie, vous faire entrer dans l'intelligence du réel, vous faire grandir dans la confiance en Dieu. Souvent les gens n'ont pas très confiance en Dieu. Ce n'est pas un jugement. Mais pourquoi en fait? Parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils ont une conception de Dieu qui vient sans la parole de Dieu. En gros, ils ne connaissent pas grand-chose à Dieu. Donc quand on ne connaît pas grand-chose, on n'a pas grand-chose en confiance. Et Thérèse de Lisieux, qui savait ça, a lu énormément la parole de Dieu. Et je suis persuadé qu'une grande partie de sa confiance vient du fait qu'elle a écouté la parole de Dieu. Voyez, donc le carnet à parole nous fait grandir la confiance, nous montre aussi de parole en parole où Dieu veut nous mener. Voyez, les gens disent, ben, je fais ce que Dieu veut, je réponds aux préceptes objectivement. Ah non, 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 Dieu c'est pas que 10 préceptes objectivement, hein. C'est un projet personnel sur ma vie, très précis. Ah bon? Oui, Dieu parle et il va te conduire. Ah bon? Ben comment? Mais tu l'as entendu? Ah non. Hier encore, j'étais avec des jeunes qui me disaient, mais comment on entend en fait tout ce qu'il vous dira dans Jean 2, récit de Cana, Marie qui dit ça? Ça veut dire qu'il nous dit des choses? Ça veut dire qu'il parle? Ça veut dire qu'il va nous guider? Mais le carnet à parole, ça permet d'entendre ce que Dieu dit, pas sur une parole, sur plein de paroles, on voit le fil rouge. Et on se dit, mais il faut que je le mette en pratique, c'est là où Dieu guide. Et là, on se dessine le projet personnel de Dieu sur nos vies. Et là, on voit la disponibilité et l'obéissance ou pas à la parole. Est en jeu notre salut, est en jeu notre sainteté, pas moins, pas plus. Donc Dieu parle. Et il est important de lire l'Écriture. Comme le disait ce père de l'Église que nous avons prié récemment, Saint Jérôme, le saint patron des exégètes, ceux qui travaillent la parole de Dieu, ça va loin, hein. Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Voilà. Beaucoup de fausses idées sur Dieu, sur le Christ, viennent qu'on ne connaît pas l'Écriture. Et l'Écriture nous enseigne, les apôtres, sert à enseigner et à réfuter. C'est-à-dire que celui qui connaît l'Écriture, il peut dire la vérité sur Dieu, et sur le salut et sur l'homme. Donc il faut connaître, et comme le dit le prophète Osée, « Mon peuple meurt faute de connaissances ». Il y a des connaissances vitales pour le salut, c'est la parole de Dieu. Il faut connaître. Dieu parle. Alors maintenant, nous allons rentrer maintenant un peu plus théologiquement sur c'est quoi la parole de Dieu, pour se faire une idée un peu plus large. Mais il était bon de commencer peut-être par de la spiritualité. Sachez que Dieu crée en parlant. Nous, on parle. Moi, personnellement, je parle, mais je n'agis pas toujours. Je ne suis pas très cohérent. Donc, je ne crée pas grand-chose. Et je peux faire le contraire de ce que je dis. C'est terrible. Dieu, il est toujours droit et il dit ce qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'il a créé l'univers en parlant. Ça agit directement. On dit que sa parole, elle est opérative, qu'elle est performative. Elle agit direct. C'est du réel. Donc, dans la Genèse, nous voyons que Dieu crée par la parole. C'est important de le noter. Et que c'est une œuvre trinitaire. Je vais vous donner une image. Quand Dieu parle, on dirait avec sa bouche, il émet un son, une parole intelligible, avec une intensité. On pourrait imaginer, c'est une image, que l'origine, la bouche, c'est Dieu le Père. Tout vient de Dieu. Et le son est donné, l'intelligence de l'idée créatrice. C'est le Fils, c'est le Verbe. Mais vous voyez, on ne peut pas dissocier le Verbe de l'intensité avec lequel, du souffle avec lequel la parole est prononcée. et en même temps, le Saint-Esprit est donné. Dans la parole de Dieu, vous avez une origine, c'est Dieu qui parle. Il parle dans le Verbe, Jésus, et en même temps, l'intensité, le souffle à lequel est fait, c'est le Saint-Esprit. Et nous avons des paroles de supplication dans le Saint-Esprit, des paroles de gémissement, des paroles d'allégresse, des paroles d'imploration, des paroles d'action de grâce, qui sont des motions du Saint-Esprit dans la parole de Dieu. Voyez ? Dieu fait ça. Cette parole, nous avons deux livres pour l'entendre, cette parole de Dieu. La première, nous n'en avons pas parlé, mais il est important de se rappeler, c'est la création. La création est le premier livre où nous pouvons entendre Dieu. La bonté, on en a parlé la fois du Créateur, l'intelligence du Créateur, l'ordination des choses, etc. L'ordonnancement des choses nous donne à voir l'œuvre de Dieu et nous parle de Dieu. L'Écriture, de manière beaucoup plus décisive, nous donne à nous unir à lui. C'est l'Écriture, de manière plus décisive, nous donne à nous unir à lui. C'est la parole surnaturelle révélée. Ce qu'est la parole de Dieu ? Et là, souvent, les catholiques se trompent. Nous nous trompons sur souvent ce qu'est la parole de Dieu. Et il est bon d'entendre le Concile Vatican II nous rappeler ce qu'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, dans la Constitution sur la parole de Dieu, Dei Verbum, le Verbe de Dieu, au paragraphe 9, la sainte tradition et la sainte écriture sont donc reliées et communiquent étroitement en elles, car toutes deux jaillissent de la même source divine, ne forment pour ainsi dire qu'un tout et tendent à une même fin. Elles forment un tout et tendent à une même fin. Je continue, paragraphe 10. La sainte tradition et les saintes écritures constituent un unique dépôt sacré de la parole de Dieu confiée à l'Église. Un unique dépôt sacré de la parole de Dieu confiée à l'Église. En fait, pour un chrétien catholique, la parole de Dieu, c'est la sainte écriture et toute la tradition. C'est très important. Nous verrons que l'écriture, à elle seule, n'est pas toute la parole de Dieu. Et quand nous disons « ça, c'est la parole de Dieu », mes amis, nous sommes protestants. Nous ne sommes pas dans le sola scriptura que la parole de Dieu seule. La tradition de l'Église, les pères de l'Église, les saints docteurs, les saints, la liturgie, le credo, c'est parole de Dieu. Et ça, la tradition permet, on va voir, d'expliquer les saintes écritures, de ne pas se tromper. Donc la parole de Dieu, c'est plus que la sainte écriture. C'est la tradition et l'écriture qui sont vénérées, nous dit le Concile, d'une égale dignité, d'une égale dignité. C'est très important. Et le Concile continue au paragraphe 9. L'Église ne tire pas de la seule Écriture sainte sa certitude sur tous les points de la révélation. C'est pourquoi l'une et l'autre, la Sainte Écriture et la tradition, doivent être reçues et vénérées avec un égal sentiment d'amour et de respect. C'est tout ça la parole de Dieu. C'est important d'avoir ça en tête, donc voir les conséquences dans notre vie spirituelle. Beaucoup d'erreurs, d'hérésies, viennent qu'on a coupé la tradition et donc qu'on interprète mal la Sainte Écriture. Et nous rajoutons à cela ce que Jésus a dit, « Pierre, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas, tu édifieras tes frères, » dit le Christ à Pierre. Dei Verbum, paragraphe 10, « La charge d'interpréter authentiquement la parole de Dieu écrite, Sainte Écriture, ou transmise, tradition, a été confiée au seul magistère vivant de l'Église dont l'autorité s'exerce au nom de Jésus-Christ. » Et qui le magistère ? C'est le pape. C'est le pape qui est l'authentique interprète de la parole de Dieu. Et à la suite du pape, de Pierre, tous ses successeurs. Et quand l'Église unit au pape, elle peut à ce moment-là interpréter de manière juste la Sainte Écriture. C'est très important. Et le pape n'est pas au-dessus de la parole de Dieu, nous dit le Concile. Pourtant, ce magistère n'est pas au-dessus de la parole, mais il est à son service, n'enseignant que ce qui a été transmis, puisque par mandat de Dieu, et nous voyons, avec l'assistance du Saint-Esprit, il écoute cette parole avec amour, la garde saintement et l'expose avec fidélité, et puise en cet unique dépôt de la foi tout ce qu'il propose de croire comme étant révélé par Dieu. Alors j'insiste sur un point, un concept théologique. L'Église, la parole de Dieu, La Sainte Écriture ne peut pas se tromper quand elle parle du salut. En cela, elle est vraie, on parle d'inhérence. On parle d'inspiration sacrée pour les auteurs, qui se termine avec le dernier apôtre, jusqu'à l'Apocalypse, c'est-à-dire c'est des auteurs sacrés, Dieu leur a donné de percevoir le mystère du salut de manière infaillible. Ça ne veut pas dire que même dans leur culture, ils n'étaient pas limités, on doit faire œuvre d'intelligence. On verra que nous ne sommes pas fondamentalistes. Cette compréhension de l'Écriture se fait dans la tradition de l'Église, qui est parole de Dieu aussi, et avec le magistère, qui nous permet de comprendre les choses. Nous disions que le magistère n'est pas au-dessus, mais il sert la parole de Dieu. Ce qui est important de dire, c'est que le magistère n'est pas inspiré, c'est pas un auteur sacré. Le pape, quand il écrit quelque chose, il n'écrit pas un livre nouveau sacré. Il est simplement assisté. C'est-à-dire que le Saint-Esprit qui a inspiré l'Écriture continue d'assister son Église pour bien comprendre les Saintes Écritures. En gros, vous avez un énorme paquet cadeau qui s'appelle les Saintes Écritures, et de siècle en siècle, on ouvre le paquet cadeau pour comprendre ce qu'il y a dedans et comment on le comprend. On comprend les couches de chaque verset, à la fois intellectuellement, spirituellement, etc. Et on est aidé, pas tout seul, parce que sinon on n'y arriverait pas, on est assisté par le Saint-Esprit. Donc il y a une différence entre l'inspiration et l'assistance, mais l'assistance permet de comprendre en profondeur les Saintes Écritures et nous déploie la tradition. Et vous voyez que dans les deux cas, c'est le même auteur, c'est le Saint-Esprit qui aide, qui inspire d'un côté et qui l'autre assiste. Et donc dans les deux cas, c'est parole de Dieu. Ça va ? Voilà. Et donc la parole de Dieu, on va dire sur des points précis, elle nous donne ce qu'il faut croire, mais ce qu'il faut faire. Et là, ça tique parfois. On dit, oh Dieu, je crois, mais la morale... Mais Dieu nous donne ce qu'il faut croire et ce qu'il faut faire. Et que l'Église enseigne ce qu'il faut croire et ce qu'il faut faire. Pourquoi ? Parce que Jésus a enseigné comment vivre et ce qu'il fallait croire. Et fidèlement à la parole de Dieu, Sainte Écriture et Tradition, l'Église enseigne ce qu'il faut croire et faire. Ça, c'est très important. Et la parole de Dieu, nous voyons la tradition de la parole de Dieu. Elle se trouve dans la liturgie par excellence. La parole de Dieu agit en acte. Elle se déploie dans le credo, elle se déploie dans l'enseignement de l'Église, morale, doctrine sociale, etc., et dans la prière. Notre Père, c'est de la parole de Dieu. Vous voyez, la parole de Dieu, elle est partout, et pas simplement dans les Saintes Écritures. Nous allons dire maintenant quatre sens de la parole de Dieu qu'il est important que nous sachions. Le sens littéral. Quand quelqu'un lit la parole de Dieu, il peut d'abord entendre que la parole de Dieu raconte un récit, un événement. Et on ne peut pas le gommer. C'est la première chose. C'est le sens littéral. Et après, nous avons trois sens spirituels. Le sens allégorique, ne retenez pas ce mot, mais vous pouvez retenir ce qu'il faut croire. Ça parle de manière éminente de Jésus. Ce qu'il faut croire. Le sens moral, ce qu'il faut faire. Et aussi, le sens anagogique, ne retenez pas ce mot, vers quoi il faut tendre, ce qu'il faut espérer. En gros, Dieu me donne un récit, sens littéral, il me fait déconnaître ma foi, le Christ, de manière particulière, il me donne comment il faut faire, sens moral, et il m'oriente vers la sainteté, vers la finalité de ma vie, les prophéties, le ciel, etc. La Jérusalem céleste, le mystère de l'Église. On tend vers ça. Toutes ces dimensions-là sont d'une manière plus ou moins cachées, toujours dans la parole de Dieu. Tout le temps dans la parole de Dieu. Et je dis d'une manière cachée parce que dans le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien. Mais c'est aussi le mystère de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament est dévoilé. On a l'accomplissement. Donc les deux existent. La clé de lecture pour un chrétien, ce n'est pas la Torah. Pour les Juifs, c'est les cinq premiers livres. Vous savez, Genèse, Deutéronome, Lévitique, Nombre et Exode. C'est pas ça pour nous. Pour nous, c'est le mystère pascal, la mort et la résurrection de Jésus. Ça veut dire que nous avons, quand nous ne comprenons pas un mot de l'Écriture ou un sens, parce qu'on n'a pas forcément toute la connaissance pour, ce qui est plus important, c'est en quoi ce passage me parle de Jésus mort et ressuscité, parce que Jésus est la clé de l'Écriture. Voyons, ça c'est le plus important. Quand Jésus dit « il est l'alpha et l'oméga », on pourrait dire « il est l'alpha et l'oméga de toute l'Écriture aussi ». Donc c'est la clé de lecture. On se rappelle de ce qu'on a dit sur le récit de la transfiguration. Il faut éviter plusieurs attitudes importantes. Ne pas tomber dans le fondamentalisme. Si la parole est inspirée, on croit en Dieu, chaque petit mot, chaque petit verset ne me dit pas scientifiquement tout sur l'univers. Voilà. Et si nous faisions ainsi, nous ne ferions pas œuvre d'intelligence. Le fondamentaliste, profondément, c'est quelqu'un qui fait un suicide de l'intelligence. Et Dieu ne veut pas ça, puisque je vous ai dit, Dieu n'est pas pour les paresseux, c'est pas pour les feignants. Donc, nous devons lire la parole de Dieu en acceptant les limites de tel ou tel auteur sacré dans sa culture et avoir du recul pour pouvoir la lire, tout en reconnaissant qu'elle est révélée, inspirée et que sur le salut, elle nous dit vrai. Vous voyez ? On ne lit pas de telle ou telle manière quelque chose de symbolique. Quand dans l'écriture, on entend que la chèvre va ruminer, ou que le lièvre va ruminer, des choses comme ça, ben excusez-moi, c'est faux scientifiquement. Mais qu'est-ce que ça veut nous dire au niveau du mystère du salut ? Voyez ? Le fondamentaliste, là, quand il y aura 144 000 élus au ciel, excusez-moi, on n'a plus notre place, ça fait un bout de temps que c'est dépassé ce chiffre. Quel est le sens de ce chiffre ? Le fondamentaliste, là encore, se trompe. C'est une erreur. Mais il y en a une qui est plus subtile et que de notre époque. Et elle n'a pas trop été mise en avant. C'est la réduction, c'est le risque de séculariser la Bible. En gros, premièrement, le surnaturel, c'est pas possible. Donc la Bible, bon, c'est écrit à une époque, mais il n'y a peut-être pas d'anges, peut-être pas de démons, pas trop de magie, pas trop d'esprit saint, tout ça, on ne sait pas trop. Et souvent, on réduit la parole de Dieu à sa propre vie. En gros, ce que ça conforte dans ma vie, ok, mais tout le reste, bon, ben non, c'est pas ça qu'il faut faire. Si on faisait ça, et c'est une tentation très courante au sein même de l'Église, de réduire la parole de Dieu à des valeurs chrétiennes, c'est pas ça, ça c'est sécularisé. C'est pas la parole de Dieu. Vous voyez, on a réduit tout le mystère à ce qu'on sait dans notre monde profane. Mais c'est plus rien. C'est pas ça que veut dire Dieu. C'est important d'entendre cela. Et souvent, par ce genre d'attitude sécularisée, on tombe dans le moralisme. Jésus a fait ça, donc on le fait aussi. Ok, un exemple typique, ça va être par exemple, il a dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais », donc on fait comme lui. Mais on oublie de dire que « aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais », en grec, ça veut dire « vous vous aimerez de mon origine », parce que « comme » c'est « de mon origine », c'est en gros « avec ma grâce surnaturelle », sinon vous ne pourrez pas vous aimer. Donc le gars qui est en mode sécularisé, eh ben, il loupe la grâce, il loupe le mystère de Dieu, il fait du moralisme, et il a réduit la parole de Dieu à sa propre vie. En fait, c'est très pauvre. Vous voyez, c'est très pauvre. Et ça, c'est un grand risque dans notre Église. C'est un grand risque. Or, il faut redire, la parole de Dieu, elle a une force divine. Elle va bien au-delà de ce qu'on comprend. Il ne faut pas la réduire à ce qu'on sait. Et quand je donne un verset à quelqu'un, je ne réduis pas à ce que je sais. Ça peut avoir un impact bien plus grand que ce que moi j'ai compris. Ça, c'est important. Enfin, je terminerai que la parole de Dieu nous aide pour l'évangélisation. Paul dit « Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile » en 1 Corinthiens 9, 16. Il est nécessaire de proclamer la parole de Dieu. Paul dira dans un autre endroit « La foi naît de la prédication » et la prédication, c'est l'annonce de la parole de Dieu. Et donc, il y a une vraie culture à acquérir de la parole de Dieu. C'est-à-dire, dans mes discussions, est-ce qu'à un moment donné, je cite un verset ? Dans mes discussions, est-ce que je cite un verset de la parole de Dieu ? Est-ce que dans mon acte d'éducateur, de parents, de grands-parents, je dis la parole de Dieu ? J'ai habitué mes enfants ou pas à dire la parole de Dieu ? Ou alors jamais ? Parce que la parole de Dieu donne accès au salut et qu'elle fait œuvre d'évangélisation. Je me souviendrai toujours de ce jeune qui discutait avec un autre, personne sceptique, avec plein d'arguments pseudo-philosophiques, et au bout d'un moment, l'affaire était creuse. Et comme il n'avait plus d'arguments, il a ouvert la parole de Dieu, et l'autre en face a dit « Waouh !» Parce que la parole de Dieu avait un impact que sa petite intelligence n'avait pas. Donc la parole de Dieu doit être dite. Et nous avons à retrouver cette dimension prophétique de proclamer la parole de Dieu au travail, dans la famille, chez les voisins. Vous voyez, un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui vit la parole de Dieu. Paul VI, dans son exhortation Evangelium Sanguis, dit ça, c'est le premier témoignage. Et après, il faut dire la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu permet d'acquérir le salut. Il faut la dire. Parce qu'il n'y a pas de foi s'il n'y a pas de parole donnée. parce que la foi, elle se fait sur la parole donnée. Vous voyez l'important ? Et je terminerai par ce que dit, donc c'est une culture de parole de Dieu à mettre en place dans l'éducation, dans la transmission, dans le fait de dire la parole de Dieu. Et je terminerai par ce que nous dit le pape François dans Evangelii Gaudium, la joie de l'évangile, sur comment évangéliser avec la parole de Dieu. Dans cette prédication, toujours respectueuse et aimable, les premiers moments consistent à un dialogue personnel, où l'autre personne s'exprime et partage ses joies, ses espérances, ses préoccupations pour les personnes qui lui sont chères, et beaucoup de choses qu'elle porte dans son cœur. C'est seulement après cette conversation qu'il est possible de présenter la parole, que ce soit par la lecture de quelques passages de l'Écriture ou de manière narrative, mais toujours en rappelant l'annonce fondamentale, l'amour personnel de Dieu qui s'est fait homme, s'est livré pour nous, qui est vivant, offre son salut et son amitié. C'est l'annonce qui se partage dans une humble attitude de témoignage de celui qui toujours sait apprendre avec la conscience que le message est si riche et si profond qu'il nous dépasse toujours. Voilà. Il y a ce contact qui est fait avec les gens et humblement, nous donnons ce que nous avons reçu, nous disons la parole, sachant qu'elle nous dépasse toujours. Mais il faut la dire. Voilà. Alors demandons au Seigneur d'abord d'apprendre à l'écouter, de passer du temps, de la lire en continu. Lisez un évangile en continu, toute la Bible, de la noter, de la prendre par cœur, d'avoir cette culture, de ne pas avoir des préjugés sur elle, de l'accueillir dans la tradition de l'Église, de la prier, la parole nous aide à prier, et puis de savoir l'annoncer. Amen.